Aristote, Métaphysique, livre 12, chapitre 1 à 7. Chapitre 1. L'essence est l'objet de notre étude, car ce que nous cherchons, ce sont les principes et les causes des essences. Si l'on considère l'univers comme un ensemble de parties, l'essence en est la partie première. Si, comme une succession, alors l'essence a le premier rang. Après elle vient la qualité, puis la quantité. Du reste, les objets qui ne sont pas des essences ne sont pas des êtres à proprement parler, mais des qualités et des mouvements. Ils n'existent qu'au même titre que le nom blanc et le nom droit, auxquels, dans le langage, nous attribuons l'existence. Quand nous disons par exemple « le nom blanc est ». Enfin, rien ne peut avoir une existence séparée de l'essence. L'exemple des anciens eux-mêmes est une preuve de ce que nous venons d'avancer, car ce qu'ils cherchaient, c'était les principes de l'essence, ses éléments, ses causes. Ce que les philosophes d'aujourd'hui préfèrent pour essence, ce sont les universaux, car ce sont des universaux que ces genres, dont ils font des principes et des essences, trop préoccupés qu'ils sont par le point de vue logique. Pour les anciens, l'essence était le particulier, c'était le feu, c'était la terre, et non pas le corps en général. Il y a trois essences, deux sensibles, dont l'une est éternelle et l'autre périssable, il n'y a pas de contestation sur cette dernière. Ce sont les plantes, les animaux. Quant à l'essence sensible éternelle, il faut s'assurer si elle n'a qu'un élément ou si elle en a plusieurs. La troisième essence est immobile. Elle a, suivant quelques philosophes, une existence indépendante. Les uns la divisent en deux éléments. Les autres ramènent à une nature unique les idées et les êtres mathématiques. D'autres, enfin, ne reconnaissent que les êtres mathématiques. Les deux essences sensibles sont les objets de la physique, car elles sont susceptibles de mouvement. Mais l'essence immobile est l'objet d'une science différente, puisqu'elle n'a aucun principe qui lui soit commun avec les deux premières. Chapitre 2. La substance sensible est susceptible de changement. Or, si le changement a lieu entre les opposés ou les intermédiaires, non pas entre tous les opposés, car le son est opposé au blanc, mais du contraire au contraire, il y a nécessairement un sujet qui subit le changement du contraire au contraire. Car ce ne sont point les contraires eux-mêmes qui changent. De plus, ce sujet persiste après ce changement, tandis que le contraire ne persiste pas. Il y a donc, outre les contraires, un troisième terme, la matière. Il y a quatre sortes de changements. Changement d'essence, de qualité, de quantité, de lieu. Le changement d'essence, c'est la production et la destruction proprement dite. Le changement de quantité, l'augmentation et la diminution. Le changement de qualité, l'altération. Le changement de lieu, le mouvement. Le changement doit donc se faire entre des contraires de la même espèce. Et il faut que la matière, pour changer de l'un à l'autre, les ait tous deux en puissance. Il y a deux sortes d'êtres, l'être en puissance et l'être en acte. Tout changement se fait donc de l'un à l'autre. Ainsi, du blanc en puissance au blanc en acte. De même, pour l'augmentation et la diminution. Il suit de là que ce n'est pas toujours accidentellement qu'une chose provient du non-être. Tout provient de l'être, mais sans doute de l'être en puissance, c'est-à-dire du non-être en acte. C'est là l'unité d'Anaxagore, car ce terme désigne mieux sa pensée que les mots. Tout était ensemble. C'est là le mélange d'Empédocle et d'Anaximandre. C'est là ce que dit Démocrite. Tout était à la fois en puissance, mais non en acte. Ces philosophes ont donc quelque idée de ce que c'est que la matière. Tout ce qui change a une matière, mais il y a des différences. Ceux des êtres éternels qui, sans être soumis aux lois de la production, sont pourtant susceptibles d'être mis en mouvement, ont une matière, mais une matière différente. Cette matière n'a point été produite, elle est seulement sujette au changement de lieu. On pourrait se demander de quel non-être proviennent les êtres, car le non-être a trois acceptions. S'il y a réellement l'être en puissance, c'est de lui que proviennent les êtres, non pas de tout être en puissance quel qu'il soit, mais de tel être en acte, de tel être en puissance. Il ne suffit pas de dire que toutes les choses existaient ensemble, car elles diffèrent par la matière. Pourquoi, sans cela, se serait-il produit une infinité d'êtres et non un être unique? L'intelligence dans ce système est unique. Si donc il n'y avait qu'une matière, il n'en serait sorti en acte que ce dont elle eût été la matière en puissance. Ainsi, il y a trois causes, trois principes. Deux constituent la contrariété, d'un côté la notion substantielle et la forme, de l'autre la privation. Le troisième principe est la matière. Chapitre 3. Prouvons maintenant que ni la matière ni la forme ne deviennent. J'entends la matière et la forme primitive. Tout ce qui change est quelque chose, et le changement a une cause et un but. La cause, c'est le premier moteur. Le sujet, c'est la matière. Le but, c'est la forme. On irait donc à l'infini si ce qui devient, c'était non pas seulement les reins cylindriques, mais la forme cylindrique elle-même ou les reins. Or, il faut s'arrêter. Ensuite, chaque essence provient d'une essence de même nom. Ainsi pour les choses naturelles, lesquelles sont des essences, ainsi pour les autres êtres, car il va des êtres qui sont des produits de l'art, d'autres viennent de la nature, ou de la fortune, ou du hasard. L'art est un principe qui réside dans un être différent de l'objet produit. Mais la nature réside dans l'objet lui-même, car c'est un homme qui engendre un homme. Pour les autres causes, elles ne sont que des privations de ces deux-là. Il y a trois sortes d'essence. La matière qui n'est qu'en apparence l'être déterminé, car des parties entre lesquelles il n'y a que simple contact et non pas connexion, ne sont qu'une pure matière, et un sujet, la nature, c'est-à-dire cette forme, cet état déterminé, auquel aboutit la production. La troisième essence est la réunion des deux premières. C'est l'essence individuelle, c'est Socrate ou Callias. Il est des objets dont la forme n'existe pas indépendamment de l'ensemble de la matière et de la forme. Ainsi, la forme d'une maison, à moins que par forme on entende l'art lui-même. Les formes de ces objets ne sont d'ailleurs sujettes ni à production ni à destruction. C'est d'une autre manière que sont ou que ne sont pas et la maison immatérielle et la santé, et tout ce qui est un produit de l'art. Mais il n'en est pas de même pour les choses naturelles. Aussi, Platon n'a-t-il pas eu tort de dire qu'il n'y a des idées que des choses naturelles. Si l'on admet qu'il peut y avoir des idées autres que des objets sensibles, celles du feu par exemple, de la chair, de la tête, toutes choses qui ne sont qu'une matière, la matière intégrante de l'essence par excellence. Les causes motrices ont la priorité d'existence sur les choses qu'elles produisent. Les causes formelles sont contemporaines de ces choses. C'est quand l'homme est sain que la santé existe, et la figure de la sphère des reins est contemporaine de la sphère des reins. Demandons-nous encore s'il subsiste quelque chose après la dissolution de l'ensemble. Pour certains êtres, rien ne s'y oppose. L'âme, par exemple, est dans ce cas, non pas l'âme tout entière, mais l'intelligence, car pour l'âme entière, cela est peut-être impossible. Il est donc évident que dans tout ce que nous venons de voir, il n'y a pas de raison pour admettre l'existence des idées. C'est un homme qui engendre un homme, c'est l'individu qui engendre l'individu. Il en est de même pour les arts, c'est la médecine qui contient la notion de la santé. Chapitre 4. Les causes et les principes sont différents pour les différents êtres sous un point de vue et sous un autre point de vue ne le sont pas. Si on les considère généralement et par analogie, ils sont les mêmes pour tous les êtres. On pourrait se poser cette question. Y a-t-il diversité ou identité de principes et d'éléments entre les essences, les relations et, en un mot, chacune des catégories? Mais il est absurde d'admettre l'identité des principes, car c'est des mêmes éléments que proviendraient alors et les relations et les sens. Quel serait donc l'élément commun? En dehors de l'essence et des autres catégories, il n'y a rien qui soit commun à tous les êtres. Or, l'élément est antérieur à ce dont il est l'élément. Ce n'est pas davantage l'essence qui est l'élément des relations, ni une relation quelconque celui de l'essence. Comment d'ailleurs est-il possible que les éléments soient les mêmes pour tous les êtres? Il ne saurait jamais y avoir identité entre un élément et ce qui est composé d'éléments. Entre B ou A, par exemple, et bas. Il n'y a pas même un élément intelligible, tel que l'unité ou l'être, qui puisse être l'élément universel. Ce sont là des caractères qui appartiennent même à tout composé. Ni l'unité, ni l'être ne saurait donc être ni essence, ni relation. Et pourtant, cela serait nécessaire. Les êtres n'ont donc pas tous les mêmes éléments. Ou plutôt, et c'est là notre opinion, il y a identité sous un point de vue et sous un autre, il n'y a pas identité. Ainsi, pour les corps sensibles, la forme est probablement le chaud, et d'une autre manière le froid, c'est-à-dire la privation du chaud. La matière, c'est le principe qui, de soi, renferme en puissance ces deux opposés. Ces trois éléments sont des essences, ainsi que les corps qu'ils constituent et dont ils sont les principes. Tout ce que le chaud et le froid peuvent produire, qui soit un, de la chair, un os par exemple, est une essence. Car ces corps ont nécessairement dès lors une existence distincte de celle des éléments dont ils proviennent. Les corps ont donc les mêmes éléments et les mêmes principes. Mais les principes et les éléments diffèrent pour les différents corps. Toutefois, on ne peut pas dire d'une manière absolue qu'il y ait identité de principe pour tous les êtres si ce n'est par analogie. C'est ainsi qu'on dit qu'il n'y a que trois principes, la forme, la privation et la matière. Chaque principe est différent pour chaque genre d'être. Pour la couleur, c'est le blanc, le noir, la surface. La lumière, les ténèbres et l'air sont les principes du jour et de la nuit. Les éléments constitutifs ne sont pas seuls des causes. Il y a encore des causes externes, telles que le moteur. Il est clair, d'après cela, que le principe et l'élément sont deux choses différentes. Tous deux sont causes, l'un et l'autre sont compris dans le terme général de principe. Et l'être qui produit le mouvement ou le repos est lui aussi un principe. Ainsi donc, au point de vue de l'analogie, il y a trois éléments et quatre causes ou quatre principes. Et sous un autre point de vue, il y a des éléments différents pour les êtres différents, et une première cause motrice différente aussi pour les différents êtres. Santé, maladie, corps, le moteur, c'est l'art du médecin, forme déterminée, désordre, brique, le moteur, c'est l'art de l'architecte. Tels sont les principes compris sous le terme général de principe. D'ailleurs, puisque pour les hommes, produits de la nature, le moteur est un homme, tandis que pour les êtres qui sont les produits de l'art, le moteur est la forme ou le contraire de la forme, d'une manière, il y a trois causes, de l'autre quatre, car l'art du médecin est en quelque façon la santé, celui de l'architecte, la forme de la maison, et c'est un homme qui engendre un homme. Enfin, en dehors de ces principes, il y a le premier de tous les êtres, le moteur de tous les êtres. Chapitre 5. Parmi les êtres, les uns peuvent exister à part, les autres ne le peuvent pas. Les premiers sont des substances. Ils sont, par conséquent, les causes de toutes choses, puisque les qualités et les mouvements n'existent pas indépendamment des substances. Ajoutons que ces principes sont probablement l'âme et le corps, ou bien l'intelligence, le désir et le corps. Sous un autre point de vue encore, les principes sont, par analogie, identiques pour tous les êtres. Ainsi, ils se réduisent à l'acte et à la puissance. Mais il y a un autre acte et une autre puissance pour les différents êtres. Et la puissance et l'acte ne sont pas toujours marqués des mêmes caractères. Il est, par exemple, des êtres qui sont tantôt en acte, tantôt en puissance. Ainsi, le vin, la chair, l'homme. Alors, les principes en question rentrent dans ceux que nous avons énumérés. En effet, l'être en acte, c'est d'un côté la forme, dans le cas où la forme peut avoir une existence indépendante, et l'ensemble de la matière et de la forme. De l'autre, c'est la privation, ainsi les ténèbres ou le malade. L'être en puissance, c'est la matière, car la matière est ce qui peut devenir l'un ou l'autre des deux opposés. Les êtres dont la matière n'est pas la même sont autrement en puissance et en acte que ceux dont la forme n'est pas la même mais diffère. Ainsi, l'homme a pour cause les éléments, à savoir le feu et la terre qui sont la matière, puis sa forme propre, puis une autre cause, une cause externe, son père par exemple. Et outre ces causes, le soleil et le cercle oblique, lesquels ne sont ni matière, ni forme, ni privation, ni des êtres du même genre que lui, mais des moteurs. Il faut considérer ensuite que parmi les principes, les uns sont universels, les autres ne le sont pas. Les principes premiers de tous les êtres sont d'un côté l'actualité première, c'est-à-dire la forme, de l'autre la puissance. Or, ce ne sont pas là les universaux, car c'est l'individu qui est le principe de l'individu, tandis que de l'homme universel, il ne sortirait qu'un homme universel. Or, il n'y a pas d'homme universel existant par lui-même. C'est Pelée qui est le principe d'Achille. C'est ton père qui est ton principe. C'est ce B qui est celui de cette syllabe ba. Le B universel ne serait que le principe de la syllabe ba. En général, ajoutons que les formes sont les principes des essences. Mais les causes et les éléments sont, comme nous l'avons dit, différents pour les différents êtres. Pour ceux, par exemple, qui n'appartiennent pas au même genre, couleur, son, essence, qualité. À moins toutefois qu'on ne parle par analogie. De même, pour ceux qui appartiennent à la même espèce. Mais alors, ce n'est pas spécifiquement qu'ils diffèrent. Alors, chaque principe est différent pour les différents individus. Ta matière, ta forme, ta cause motrice ne sont pas les mêmes que les miennes. Mais, sous le point de vue général, il y a identité. Si l'on nous adressait cette question, quels sont les principes ou les éléments des essences, des relations, des qualités? Sont-ils les mêmes ou sont-ils différents? Évidemment, il nous faudrait répondre que, pris dans leur acception générale, ils sont les mêmes pour chaque être, mais que si l'on établit des principes différents, ils ne sont plus les mêmes, ce sont des principes différents. Et pourtant, même alors, ils sont, sous l'autre point de vue, les mêmes pour tous les êtres. Si l'on considère l'analogie, il y a identité, puisque les principes sont toujours matière, forme, privation, moteur. Alors, encore, les causes des substances sont les causes de toutes choses. Car, si l'on détruit les substances, tout est détruit. Ajoutons que le premier principe est en acte. Il y a donc, à ce titre, autant de principes qu'il y a de contraires qui ne sont ni des genres, ni des termes embrassant plusieurs choses différentes. Enfin, les matières sont des premiers principes. Nous avons exposé quels sont les principes des êtres sensibles, quel est leur nombre, dans quel cas ils sont les mêmes et dans quel cas ils diffèrent. Chapitre 6. Il y a, avons-nous dit, trois essences. Deux essences physiques et une essence immobile. C'est de cette dernière que nous allons parler. Nous allons montrer qu'il y a nécessairement une essence éternelle qui est immobile. Les essences sont les premiers des êtres. Et si toutes elles sont périssables, tous les êtres sont périssables. Mais il est impossible que le mouvement ait commencé ou qu'il finisse. Le mouvement est éternel. De même le temps, car si le temps n'existait pas, il ne saurait y avoir ni avant ni après. Ajoutons que le mouvement et le temps ont la même continuité. Ou bien, en effet, ils sont identiques l'un à l'autre, ou bien le temps est un mode du mouvement. Il n'y a de mouvement continu que le mouvement dans l'espace. Non pas tout mouvement dans l'espace, mais le mouvement circulaire. Or, s'il y a une cause motrice ou une cause efficiente, mais que cette cause ne passe point à l'acte, il n'y a pas pour cela mouvement, car ce qui a la puissance peut ne pas agir. Nous ne serions pas plus avancés quand même nous admettrions des essences éternelles, comme font les partisans des idées. Il faudrait encore qu'elles eussent en elles un principe capable d'opérer le changement. Ni ces substances ne suffisent, ni aucune autre substance. Si cette substance ne passait pas à l'acte, il n'y aurait pas de mouvement. Le mouvement n'existerait même pas, bien qu'elle passât à l'acte, si son essence était la puissance, car alors le mouvement ne serait pas éternel, ce qui est en puissance pouvant ne pas se réaliser. Il faut donc qu'il y ait un principe tel que son essence soit l'acte même. D'ailleurs, les substances en question doivent être immatérielles, car elles sont nécessairement éternelles, puisqu'il y a nécessairement d'autres choses éternelles, leur essence et par conséquent l'acte même. Mais ici, une difficulté se présente. Tout être en acte a, ce semble, la puissance, tandis que ce qui a la puissance ne passe pas toujours à l'acte. L'antériorité appartiendrait donc à la puissance. Or, s'il en est ainsi, rien de ce qui est ne saurait exister, car ce qui a la puissance d'être peut n'être pas encore. Et alors, soit qu'on partage l'opinion des théologiens, lesquels font tout sortir de la nuit, soit qu'on adopte ce principe des physiciens, toutes les choses existaient ensemble, des deux côtés, l'impossibilité est la même. Comment y aura-t-il mouvement s'il n'y a pas de cause en acte? Ce n'est pas la matière qui se mettra elle-même en mouvement. Ce qu'il y met, c'est l'art de l'ouvrier. Ce ne sont pas non plus les menstrues ni la terre qui se féconderont elles-mêmes. Ce sont les semences, c'est le germe qui les féconde. Ainsi, quelques philosophes admettent-ils une action éternelle? Ainsi Leucippe et Platon, car le mouvement, suivant eux, est éternel. Mais ils n'expliquent ni le pourquoi, ni la nature, ni le comment, ni la cause. Et pourtant, rien n'est mu par hasard. Il faut toujours que le mouvement ait un principe. Telle chose se meut de telle manière, ou par sa nature même, ou par l'action d'une force, ou par celle de l'intelligence, ou par celle de quelque autre principe déterminé. Et quel est le mouvement primitif? Question d'une haute importance qu'il ne résolve pas davantage. Platon ne peut pas même alléguer, comme principe du mouvement, ce principe dont il parle quelquefois. Cet être qui se meut lui-même. Car l'âme, d'après son propre aveu, est postérieure au mouvement et contemporaine du ciel. Ainsi, regarder la puissance comme antérieure à l'acte, c'est une opinion vraie sous un point de vue, erronée sous un autre. Et nous avons déjà dit comment. Anaxagore reconnaît l'antériorité de l'acte, car l'intelligence est un principe actif. Et avec Anaxagore, Empédocle, qui admet comme principe l'amitié et la discorde, et les philosophes qui font le mouvement éternel, Leucippe par exemple. Il ne faut donc pas dire que pendant un temps indéfini, le chaos et la nuit existaient seuls. Le monde est de tout temps ce qu'il est, soit qu'il y ait des retours périodiques, soit qu'une autre doctrine ait raison. Si l'acte est antérieur à la puissance. Or, si la succession périodique des choses est toujours la même, il doit y avoir un être dont l'action demeure éternellement la même. Ce n'est pas tout. Pour qu'il puisse y avoir production, il faut qu'il y ait un autre principe, éternellement agissant, tantôt dans un sens, tantôt dans un autre sens. Il faut donc que ce nouveau principe agisse sous un point de vue en soi et pour soi, sous un autre point de vue par rapport à autre chose. Et cette autre chose, c'est ou bien quelque autre principe, ou bien le premier principe. C'est nécessairement en vertu du premier principe qu'agit toujours celui dont nous parlons, car le premier principe est la cause du second, et aussi de cet autre principe par rapport auquel le second pourrait agir. Le premier principe est donc aussi le meilleur. C'est lui qui est la cause de l'éternelle uniformité, tandis que l'autre est la cause de la diversité. Les deux réunis sont évidemment la cause de la diversité éternelle. C'est ainsi qu'ont lieu les mouvements. Qu'est-il donc besoin de chercher d'autres principes? Chapitre 7. Il est possible qu'il en soit ainsi. Autrement, il faudrait dire que tout provient de la nuit, de la confusion primitive, du non-être. Ces difficultés peuvent donc être résolues. Il y a quelque chose qui se meut d'un mouvement continu. Lequel mouvement est le mouvement circulaire? Ce n'est pas le raisonnement seul qui le prouve, mais le fait même. Il s'ensuit que le premier ciel doit être éternel. Il y a donc aussi quelque chose qui meut éternellement. Et comme il n'y a que trois sortes d'êtres, ce qui est mu, ce qui meut, et le moyen terme entre ce qui est mu et ce qui meut, c'est un être qui meut sans être mu, être éternel, essence pure et actualité pure. Or, voici comment il se meut. Le désirable et l'intelligible meuvent sans être mu, et le premier désirable est identique au premier intelligible. Car l'objet du désir, c'est ce qui paraît beau, et l'objet premier de la volonté, c'est ce qui est beau. Nous désirons une chose parce qu'elle nous semble bonne, plutôt qu'elle ne nous semble telle parce que nous la désirons. Le principe ici, c'est la pensée. Or, la pensée est mise en mouvement par l'intelligible, et l'ordre du désirable est intelligible en soi et pour soi. Et dans cet ordre, l'essence est au premier rang. Et entre les essences, la première est l'essence simple et actuelle. Mais l'un et le simple ne sont pas la même chose. L'un désigne une mesure commune à plusieurs êtres. Le simple est une propriété du même être. Ainsi, le beau en soi et le désirable en soi rentrent l'un et l'autre dans l'ordre de l'intelligible. Et ce qui est premier est toujours excellent, soit absolument, soit relativement. La véritable cause finale réside dans les êtres immobiles. C'est ce que montre la distinction établie entre les causes finales. Car il y a la cause finale absolue et celle qui n'est pas absolue. L'être immobile meut comme objet de l'amour et ce qu'il meut imprime le mouvement à tout le reste. Or, pour tout être qui se meut, il y a possibilité de changement. Si donc le mouvement de translation est le mouvement premier, et que ce mouvement soit en acte, l'être qui est mu peut changer, sinon quant à l'essence, du moins quant au lieu. Mais dès qu'il y a un être qui meut, tout en restant immobile, bien qu'il soit en acte, cet être n'est susceptible d'aucun changement. En effet, le changement premier, c'est le mouvement de translation. Et le premier des mouvements de translation, c'est le mouvement circulaire. Or, l'être qui imprime ce mouvement, c'est le moteur immobile. Le moteur immobile est donc un être nécessaire. Et en tant que nécessaire, il est le bien, et par conséquent un principe. Car, voici quelles sont les acceptions du mot nécessaire. Il y a la nécessité violente. C'est ce qui contraint notre inclination naturelle. Puis, la nécessité qui est la condition du bien. Enfin, le nécessaire. C'est ce qui est absolument de telle manière et n'est pas susceptible d'être autrement. Tel est le principe auquel sont suspendus le ciel et toute la terre. Ce n'est que pendant quelque temps que nous pouvons jouir de la félicité parfaite. Il la possède éternellement, ce qui nous est impossible. La jouissance, pour lui, c'est son action même. C'est parce qu'elles sont des actions que la veille, la sensation, la pensée sont nos plus grandes jouissances. L'espoir et le souvenir ne sont des jouissances que par leur rapport avec celle-là. Or, la pensée en soi est la pensée de ce qui est en soi le meilleur. Et la pensée par excellence est la pensée de ce qui est le bien par excellence. L'intelligence se pense elle-même en saisissant l'intelligible, car elle devient elle-même intelligible à ce contact, à ce penser. Il y a donc identité entre l'intelligence et l'intelligible, car la faculté de percevoir l'intelligible et l'essence, voilà l'intelligence. Et l'actualité de l'intelligence, c'est la possession de l'intelligible. Ce caractère divin, ce semble, de l'intelligence, se trouve donc au plus haut degré dans l'intelligence divine, et la contemplation est la jouissance suprême et le souverain bonheur. Si Dieu jouit éternellement de cette félicité que nous ne connaissons que par instant, il est digne de notre admiration. Il en est plus digne encore si son bonheur est plus grand. Or, son bonheur est plus grand, en effet. La vie est en lui, car l'action de l'intelligence est une vie, et Dieu est l'actualité même de l'intelligence. Cette actualité prise en soi, telle est sa vie parfaite et éternelle. Aussi, appelons-nous Dieu un animal éternel parfait. La vie et la durée continue et éternelle appartiennent donc à Dieu, car cela même, c'est Dieu. Ceux qui pensent, avec les pythagoriciens et Speusippe, que le premier principe, ce n'est pas le beau et le bien par excellence, parce que les principes des plantes et ceux des animaux sont des causes, tandis que le beau et le parfait ne se trouvent que dans ce qui provient des causes, ceux-là n'ont pas une opinion bien fondée, car la semence provient d'êtres parfaits qui lui sont antérieurs, et le principe n'est pas la semence, mais l'être parfait. C'est ainsi qu'on peut dire que l'homme est antérieur à la semence, non pas sans doute l'homme qui est né de la semence, mais celui dont elle provient. Il est évident, d'après ce que nous venons de dire, qu'il y a une essence éternelle, immobile et distincte des objets sensibles. Il est démontré aussi que cette essence ne peut avoir aucune étendue, qu'elle est sans partie et indivisible. Elle meut, en effet, durant un temps infini. Or, rien de fini ne saurait avoir une puissance infinie. Toute étendue est ou infinie ou finie. Par conséquent, cette essence ne peut avoir une étendue finie. Et d'ailleurs, elle n'est pas une étendue infinie, parce qu'il n'y a absolument pas d'étendue infinie. Ajoutez enfin qu'elle n'admet ni modification, ni altération, car tous les mouvements sont postérieurs aux mouvements dans l'espace. Tels sont les caractères manifestes de l'essence dont il s'agit.